Jean chapitre 1er, on va lire à partir du verset 35. Jean 1er verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, Jean-Baptiste, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu !» Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que recherchez-vous » Ils leur répondirent « Rabbi !» Ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, et il lui dit « Suis-moi !» Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et il lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. » Vous avez ce désir de voir les anges monter et descendre au-dessus de vous. Vous allez me dire « Mais nous, on n'est pas les fils de l'homme à l'image de Jésus. On n'est pas le Fils de Dieu. » Mais le Seigneur, il a dit qu'il ferait de nous son habitation en esprit. Et donc, moi, je crois que ce qu'il a dit à ce moment-là, c'était vrai pour lui, que Jésus allait être employé par le Dieu Tout-Puissant pour faire des grâces et des bénédictions particulières. Mais maintenant, le Seigneur, qui est retourné au ciel, veut faire de même avec chacun d'entre nous. Il n'est pas question d'avoir une cravate et d'être le pasteur pour que le Seigneur se serve de nous. Il est question d'être quelqu'un qui est disposé à être utilisé par le Seigneur. Est-ce que j'ai à cœur que le Seigneur se serve de moi? C'est ça la vraie question. Dans ce passage, on retrouve une expression qui vient régulièrement, c'est « viens et vois ». Vous connaissez ce passage, vous connaissez cette expression, on l'emploie souvent. Mais on remarque que dans la parole de Dieu qu'il y a une portée beaucoup plus grande. C'est pas seulement de venir et de voir quelque chose et puis de repartir comme ça. C'est venir, c'est voir et c'est devenir quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Viens et vois de manière simple. Quand on s'arrête à viens et vois, mais ça suffit pour qu'on invite quelqu'un à venir voir un match. Viens avec moi voir le TFC qui joue à Toulouse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir le match, et quand vous allez sortir du match, est-ce que votre vie va être transformée? Est-ce que vous allez être guéri? Est-ce que vous allez être consolé dans votre cœur? Non. Vous allez voir un match, peut-être vous allez passer un bon moment, tout dépend de qui gagne ou qui perd. Viens y voir sur YouTube, viens voir le championnat de vers de terre. Vous êtes allé voir le championnat de vers de terre sur YouTube? Je vous invite à le voir si ça vous intéresse, mais franchement, c'est pas ça qui va changer votre vie. Viens voir le dessin que mon enfant m'a fait. Mon enfant de 5 ans m'a fait un super dessin, viens le voir. Mais c'est pareil, ça va être joli, on va s'émerveiller, s'extasier, mais ça va pas changer notre vie. Mais quand on vient et qu'on voit la présence de Dieu, quand on vient et qu'on voit le Seigneur Jésus, alors il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Il y a une transformation. C'est pour ça que j'ai donné le titre à ce message « Viens, vois et deviens ». Et dans ce passage, on voit que des gens sont venus, ont vu le Seigneur et sont devenus des disciples. Et c'est exactement le programme que Dieu il a pour chacun d'entre nous. C'est vendredi qu'on disait, qu'on soulignait qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui sont pas forcément des disciples. On peut être croyant, mais pas être un disciple. Or, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a un mot qui revient beaucoup plus souvent que le mot croyant ou que le mot chrétien, c'est le mot disciple. Disciple, ça veut dire quoi? Ah, quelqu'un qui doit se mettre sous une discipline de fer. Non, c'est pas ça. Disciple, c'est quelqu'un qui est un élève. Un élève à l'école de Dieu. Vous avez tous été élèves à un moment donné. Vous vous souvenez comment ça se passait? C'était un professeur qui était là. Et qui c'est lui qui vous disait comment ce qu'il fallait apprendre. C'est lui qui faisait la leçon. C'est pas l'élève qui vient et qui se met à la place au bureau et qui dit « Bon, écoutez, monsieur le professeur, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous enseigner. » C'est pas comme ça que ça marche. Ça serait la débandade si c'était comme ça. Mais c'est à nous de nous mettre sur le siège et de dire « Seigneur, parle parce que ton serviteur, il écoute. » Et on voit que ces personnes, ces deux disciples qui sont venus, il y en a un qui s'appelait André, l'autre, on ne sait pas vraiment qui c'était. En tout cas, ils ont entendu parler du Seigneur. Et de quel endroit est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus de l'enseignement de Jean-Baptiste. C'était des disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que c'était bien qu'ils soient disciples de Jean-Baptiste? Ben oui, parce que Jean-Baptiste, il était venu pour préparer le terrain, parce qu'il y en avait un autre qui allait arriver après, qui allait être employé de Dieu. Et Jean-Baptiste est venu, il a parlé du baptême de repentance, il a parlé du fruit de la repentance, il a parlé de toutes sortes de vérités qui ont déjà commencé à faire leur travail dans le cœur de ces personnes et qui les ont préparées à rencontrer après le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a enseigné Jean-Baptiste? C'est dans les versets précédents qu'on le voit. Par exemple, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et ces disciples qui étaient là, ils avaient une soif de pureté. Ils avaient une soif d'être lavés dans leur cœur. Parce qu'à l'époque, faut bien se souvenir qu'à l'époque, la façon dont on pouvait être pardonné de son péché, mais c'était d'offrir des sacrifices. Et à chaque fois que je péchais, il fallait que j'offre un sacrifice. Alors, si je péchais 10 fois dans la semaine, il fallait que j'offre 10 sacrifices. Vous imaginez le nombre de sacrifices qu'il fallait faire. Et là, Jean-Baptiste leur dit, mais voici l'agneau de Dieu, celui-là, il ôte le péché. C'est pas juste qu'il pardonne pour une fois, il ôte le péché carrément. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on vient, on est avec Jean-Baptiste, c'est super ce qu'il nous enseigne, mais on veut aller voir cet homme-là. Et quand Jean-Baptiste parle, il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oh là, ça paraît un petit peu compliqué. Mais tout simplement, il est en train de dire, Jésus, c'est celui qui, avant que la terre ait été créée, il existait déjà. C'est lui qui a permis que la terre existe. C'est lui qui a permis que chacune de nos vies existe. C'est lui qui fait en sorte qu'avant même que nous rencontrions un problème, Jésus, il a déjà la solution à notre problème, pour être plus concret. C'est ça que ça veut dire. Jésus est celui qui existait avant tous les âges et celui qui peut, pour nous, faire quelque chose. Il a des plans parfaits. Et ces personnes, quand ils ont entendu tout cet enseignement et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, il faut qu'on aille le voir. Jésus, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés dans l'eau. C'est bien d'être baptisé dans l'eau. C'est déjà une étape. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême dans l'eau. C'est une erreur de s'arrêter à cela. Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jésus est celui qui nous remplit de cette puissance pour pouvoir devenir ses témoins dans la Judée, dans la Samarie. Et pour nous, c'est à Moissac, c'est dans notre village, à Castelsarrasin, c'est jusqu'à Lozère, jusqu'aux extrémités du Tarn-et-Garonne et jusqu'aux extrémités de la France. Le Seigneur nous envoie. Et pour nous envoyer, il ne nous envoie pas de manière comme ça à la légère. Il nous donne le Saint-Esprit qui habite en nous pour accomplir sa volonté. Et ces gens avaient cette soif dans le cœur. Et quand on vient avec soif devant le Seigneur, alors le Seigneur, il va répondre à nos attentes. On peut venir devant Dieu, mais sans soif. On peut venir devant Dieu sans aucun désir. Et quand on vient de cette manière, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez déjà vécu? Quand on vient devant le Seigneur, mais sans vraiment avoir envie qu'il nous bénisse, ben, il se passe rien. C'est aussi simple que ça. Le désir que je vais avoir pour rechercher Dieu va correspondre à la bénédiction que Dieu va me donner. Et le Seigneur est celui qui nous permet de vivre dans sa présence. Quand on a ce désir, quand on s'attend à lui, il nous permet de vivre des choses merveilleuses. Il nous permet d'être touché dans notre vie. Il nous permet de connaître ces moments-là où on vit des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre sinon, parce que notre Dieu, il est tout puissant. Et ces hommes ont été interpellés. Ils avaient tout ça comme enseignement. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, ça suffit pas qu'on soit avec Jean-Baptiste. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on voie le Seigneur de nos propres yeux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus. Ils ont vu où c'est qu'il demeurait. ils ont vu le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu à ce moment-là? Jésus, il n'a pas fait des millions de miracles. Mais ils ont vu Jésus qui était humble. Jésus qui était doux dans ses paroles. Jésus qui était patient. Jésus qui était plein d'amour. Jésus qui les a reçus avec douceur. Et ils ont été interpellés parce que cet homme-là qui semblait être utilisé par Dieu pour faire tant de grandes choses, il était aussi tellement simple. Et le Seigneur est celui qui nous donne ce modèle. Quand ses disciples ont vu le modèle du Seigneur d'amour et de vérité, d'une foi qui est concrète, parce qu'ils sont venus, ils n'ont pas vu Jésus dans une église en train de prêcher à un pupitre. C'est pas ça qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus là où il habitait. Donc ils l'ont vu, je sais pas, ils l'ont vu en train de manger, mais ils l'ont vu en train de parler avec l'un, en train de donner une parole avec l'autre. Ils ont vu qu'il y avait un amour qui se dégageait de sa personne. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que de notre vie se dégage plus d'amour que d'autres choses? On est dans un pays en France où de nos bouches, souvent, sortent plus des paroles négatives que des paroles qui encouragent. Alors, vous allez dire, c'est pas notre faute, tout le monde fait pareil. Et des fois, on se rend compte que même dans l'église, on a tendance à se plaindre. Alors qu'il y a des choses bonnes, alors que le Seigneur agit, le Seigneur fait du bien, c'est tellement bon de se raconter les expériences que le Seigneur fait pour les uns ou pour les autres. On se plaint des hommes politiques, on se plaint de tels problèmes de la société, on se plaint de tout. Et le résultat qui se passe, c'est qu'on n'est pas heureux. Mais ces hommes sont venus. Ces hommes ont vu Jésus et le résultat, ils sont devenus des gens qui ont voulu rester auprès de lui. Seigneur, je t'en supplie, on veut rester avec toi. Est-ce que quand nous sommes venus, est-ce que quand nous avons vu le Seigneur, nous avons eu ce désir de rester auprès de lui? Est-ce que ça s'est passé il y a 20 ans d'arrière et qu'on a dit, mais je restais auprès du Seigneur à ce moment-là, mais maintenant j'en ai plus besoin? Ou c'est quelque chose qui est tous les jours, Seigneur, je veux rester auprès de toi. J'ai besoin de ta présence, Seigneur, aujourd'hui encore. Seigneur, j'ai besoin de vivre quelque chose, de devenir un disciple à l'image de ces hommes-là qui sont venus auprès du Seigneur et qui sont restés. Ils ont planté leur tente, ils ont amené leur bagage avec le Seigneur Jésus. Ils ont dit, on veut rester avec toi, on veut rester accroché à toi parce qu'on sait que notre vie va plus être la même de cette manière. Et ça doit être vraiment notre désir. Si nous voulons qu'il y ait des choses changent dans notre vie, c'est pas des grandes méthodes qui vont changer les choses, c'est de rester près du Seigneur, accroché à sa présence. C'est de rester devant Dieu, dans la prière. Au verset 40, il est parlé d'André qui va chercher son frère Simon. Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et Simon va être encouragé par son frère. Son frère vient le chercher et lui dit, viens voir Jésus, viens te mettre à son contact et tu vas voir que ta vie va changer. Et Pierre, sûrement qu'il a un petit peu traîné la patte parce qu'il savait pas vraiment qu'est-ce qu'il lui disait son frère et il le trouvait tout excité, il sautait partout. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Puis bon, par curiosité, j'imagine, il a suivi quand même. Il a suivi parce qu'il attendait, il voulait qu'il y ait le Messie qui arrive dans son pays d'Israël. Il avait soif quand même que Dieu fasse une œuvre dans sa vie aussi. Et il s'est dit, ben on sait jamais, on va tester. Pierre est venu, Pierre a vu Jésus, mais le passage nous dit qu'il a vu Jésus, mais Jésus l'a vu. Et c'est beaucoup mieux quand c'est Jésus qui nous voit. Bien sûr, Jésus l'a vu parce que Pierre a fait l'effort de venir. Pierre a quitté le confort de sa maison, qu'il avait payé avec les sous de la pêche qu'il faisait. Il était pêcheur, donc il avait sa situation. Mais pendant un instant, il a dit, bon, je vais laisser tout ça, je vais aller voir Jésus. Jésus l'a vu et Jésus lui a donné une parole. Et c'est exactement la même chose pour nous quand nous venons dans la présence de Dieu, même si nous sommes plus par curiosité ou par toutes sortes de motifs dans notre cœur, peu importe, le Seigneur est celui qui nous voit. Et le Seigneur est celui qui veut nous dire des paroles. Et des paroles qui sont pas là juste légères, qui vont passer, mais pour Pierre ça a été quelque chose d'incroyable. Lui qui s'appelait Simon, il est devenu Pierre. Simon, ça veut dire celui qui entend, celui que Dieu a écouté aussi. Celui qui est exaucé. Et ça, il va devenir Pierre. Ça me fait penser à ce verset. Quiconque entend cette parole et la met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et qu'est-ce qui se passe pour un homme comme ça? Quand le vent souffle, la maison, elle bouge pas. La question n'est pas est-ce que le vent souffle, parce que le vent, il souffle très fort pour tout le monde. La question, c'est est-ce que j'ai bâti ma maison sur le roc? Pierre est devenu quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc et que Dieu a même pu employer par la suite pour bâtir son église. Jésus lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église parce que tu es un homme qui est devenu enraciné en moi. Tu es un homme qui est devenu enraciné en ma parole. Alors je peux faire quelque chose de ta vie. Et c'est exactement la même chose pour nous. Dieu veut que nous soyons enracinés en lui, que nous devenions pères, ne soyons pas seulement quelqu'un qui entend, c'est très bien d'entendre, c'est très bien de venir et de voir le Seigneur Jésus à l'œuvre. C'est tellement mieux quand on devient quelqu'un d'affermi, c'est tellement mieux quand on devient quelqu'un de solide, c'est tellement mieux quand on devient quelqu'un sur lequel on peut compter, quand on est quelqu'un à qui on peut confier des choses, et que Dieu va pouvoir confier des choses, et que Dieu va pouvoir faire fructifier ces choses dans notre vie. La semaine dernière, je partageais ce passage particulièrement à Colomiers. Et pendant que je parlais de cela, il y avait une dame, à un moment donné où j'ai dit « Simon, c'est celui qui écoute et c'est celui que Dieu a entendu », il y a une dame dans l'assistance qui a dit « Oui, amen, alléluia, Dieu m'entend, Dieu m'écoute, Simon !» Alors j'ai trouvé, elle était très très enthousiaste. Et j'ai dit « Amen, c'est vrai, oui !» Et puis on a continué le culte comme ça. Et c'est vrai que pendant la prière, cette dame, elle a prié d'une certaine manière un petit peu bizarre. Elle a dit « Seigneur, tu vois, j'en peux plus, j'en ai marre. Je te prie pour ma famille, mais j'ai plus la force, Seigneur, je suis épuisé. » Et pendant ce temps, donc, elle a déversé son cœur devant le Seigneur. Bon, nous, on a l'habitude dans ces moments-là que ça soit le louange qui monte, mais elle était arrivée à un point où elle était épuisée. Et alors que j'ai prêché, donc j'ai dit cette chose-là, et puis moi, j'ai pas tenu cas. J'ai dit, voilà, en hébreu, Simon, ça veut dire celui qui écoute. Et elle, ça a fait un impact dans son cœur et donc elle a réagi. Puis à la fin de la réunion, j'étais à la sortie, elle est venue me voir, elle est venue me saluer. Et elle m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a parlé au travers de vous. J'ai dit, ah bon? Et oui, quand vous avez parlé de Simon, j'ai dit, oui, Simon, c'est en hébreu, ça veut dire celui qui écoute, celui que Dieu écoute. Elle m'a dit, moi je suis d'origine arabe et en arabe, c'est Smaïn. Smaïn, ça veut dire celui que Dieu entend. Et ce matin, dans ma prière, je priais parce que j'en peux plus dans ma famille. Il y a des combats, c'est difficile. Il y a la persécution et je suis à bout de force. Et je disais, Seigneur, mais est-ce que tu es celui qui m'écoute? Est-ce que tu es celui qui m'entend? Et elle le disait en arabe. Elle disait, Smaïn, Smaïn. Alors moi, je savais même pas que ça existait. Hein. Et elle me raconte ça et elle me dit, quand vous avez parlé, le Seigneur m'a convaincu que Dieu avait entendu ma prière et qu'il allait m'exaucer. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que tu fais des choses sans que... Moi, je connais rien à l'arabe, je connais rien à l'hébreu, je connais rien du tout à la situation de la dame, mais Dieu, il connaît. Et Dieu, il agit. Quand on lui fait confiance. Il n'y a pas besoin d'être un surhomme, parce que cette dame, elle était au bord de l'épuisement. Mais elle a prié de tout son cœur. Et le Seigneur a fait son œuvre. Et je crois, et je suis en contact avec le pasteur pour pouvoir me renseigner sur la suite des événements, pour pouvoir vous le raconter. Mais que le nom du Seigneur soit béni pour ces moments-là, où nous voyons l'action de Dieu. Et c'est la même chose qui s'est passée pour cet homme qui s'appelle Nathanaël. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes. On parlait Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël, il arrive avec ses a priori. Est-ce que de Nazareth, il peut venir quelque chose de bon? Est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi, on entendrait aujourd'hui? Nazareth, c'était pour lui quelque chose où il pensait que personne ne pouvait faire rien de bien. Et des fois, on a des a priori sur Dieu. Des fois, on a des a priori sur la prière. Je me souviens de cette dame qui m'avait raconté cette histoire où sa fille ne faisait que l'appeler pour qu'elle lui paye ses factures ou qu'elle lui paye les amendes. Et à chaque fois qu'elle appelait, c'est qu'elle demandait de l'argent. Vous aimez ces coups de fil là où on vous demande tout le temps de l'argent? Et elle prenait jamais aucune nouvelle, seulement elle lui demandait de l'argent. Et elle me dit, mais c'est quelque chose qui me pèse. Mais je lui dis, mais pourquoi vous priez pas? Ah non, non, Seigneur, c'est pas des choses qui concernent Dieu, ça. Elle avait des a priori sur la prière, comme quoi la prière c'était quelque chose de tellement saint, il faut que ça soit que du sujet saint pour lequel on prie. Mais je lui ai dit, mais non, mais le Seigneur, il veut se glorifier dans nos vies de manière concrète. Et je lui ai dit, mais priez pour que le Seigneur pose sa main sur cette situation. Et donc, elle a fait de tout son cœur, tout simplement. Et elle est revenue quelques jours après, elle m'a dit, pasteur, c'est pas croyable. Mais ma fille m'a appelé, elle m'a rien demandé. Et elle a pris même des nouvelles. Elle a commencé à me parler de tout et de rien, de raconter un petit peu la vie de la famille. Et elle m'a dit qu'elle viendrait me voir et qu'on passerait du temps ensemble. Seigneur, le Seigneur a répondu à ma prière. Je lui ai dit, vous voyez, ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine, même quand on a des a priori, de le faire quand même. Des fois, on a des a priori, on dit que telle situation, c'est trop compliqué. Telle parole, ça va être trop dur à dire. J'y arriverai jamais. Mais quand on fait le pari de la prière, le Seigneur, lui, pourvoit. Le Seigneur, il bénit. Et c'est tellement bon de vivre ces expériences-là parce qu'on se rend compte qu'on a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous répond. Philippe lui répond cette parole, viens et vois. Et nous devons venir, nous devons voir. Mais on se rend compte que quand Nathanaël, il est venu, quand il a vu, une fois de plus, c'est Jésus qui l'a vu. Jésus qui l'a repéré et qui lui dit une parole. Et cet homme est devenu quelqu'un qui a changé dans sa vie. Lui qui avait des a priori sur Nazareth, il a vu qu'il y avait quelqu'un de Nazareth qui n'était pas si mal que ça. C'était carrément le Fils de Dieu. Quand on voit ce qu'il lui dit à la fin, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Lui qui disait que de Nazareth, il peut rien venir de bon, ça change quand même le discours. Mais on voit qu'il y a une transformation parce qu'il a été au contact de la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Nathanaël donc lui dit, viens et vois. Et Nathanaël sort de ce contexte avec ses a priori. Il voit le Seigneur, mais le Seigneur lui dit surtout cette parole. Parce que je t'ai dit, il lui dit, avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Le Seigneur l'a vu quand il est venu, mais il l'avait déjà vu avant. Vous aimez réaliser que le Seigneur vous a vu avant que vous rentriez dans ce lieu? Il ne se contente pas de nous voir quand on vient à l'église, c'est juste là que Dieu voit les choses. Non, il nous voit bien avant. Il nous voit quand on est dans notre chambre, que personne ne nous voit et qu'on est en train de déverser notre cœur. À un moment donné, Jésus lui dit cette parole. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Vous imaginez le témoignage que Jésus lui dit? Vous aimeriez que Jésus vous dise ça? Voici un homme ou une femme dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que Nathanaël était sans péché? Ah ben, moi, je suis sûr même que c'était pas le cas. Il avait des péchés dans sa vie, comme tous les hommes. Tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Mais sous le figuier, qu'est-ce qu'il a fait, Nathanaël? On ne sait pas vraiment, mais les paroles de Jésus nous laissent entendre qu'il a déversé son cœur devant Dieu. Seigneur, tu vois, peut-être il y a ce péché qui est là. Je te demande pardon, je me repens. Seigneur, je veux qu'il n'y ait rien qui se mette entre toi et moi, rien qui m'empêche d'accéder à ta présence. Nathanaël, sous le figuier, il a commencé à déverser son cœur devant Dieu. Il a commencé à s'humilier, il a commencé à faire connaître tout le fond de son cœur, sa faiblesse. Et quand Jésus le voit, il lui donne cette parole qui atteste qu'il y a quelque chose qui s'est passé déjà sous le figuier. Voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Moi, j'aime quand le Seigneur Jésus, il se sert de quelqu'un pour donner une parole de prophétie. J'aime parce que combien de fois ça fait du bien? Ben, en fait, c'est à chaque fois. Ça fait du bien parce que ça a quelque chose qui nous atteste que le Seigneur s'occupe de nous. Jésus est en train de dire une parole prophétique là sur Nathanaël. Tu étais sous le figuier, personne t'a vu, mais moi je t'ai vu parce que je suis omniscient. Et Nathanaël, il savait, ça a résonné dans son cœur. Et moi, je me souviens, il y a quelques mois en arrière, j'ai passé un petit temps de découragement parce que je regardais plus à ce qui n'allait pas qu'à ce qui allait. Et donc, quand on fait ça, vous inquiétez pas, si vous regardez que les choses négatives, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes découragé. Je l'ai encore réappris. Mais le Seigneur, il m'a parlé. Il y avait une pastorale. C'est pour ça que c'est important de prier pour les pastorales. Parce qu'à une pastorale, je suis arrivé, j'avais dit des choses au Seigneur sur mon lit, parce que j'arrivais pas à dormir. Et le lundi matin, une parole qui retentit. Quelqu'un qui connaît rien à la situation. Et qui commence à dire des choses précises. Et qui commence à révéler certaines mauvaises attitudes. Tu regardes à ce qui ne va pas, au lieu de te réjouir de ce qui va. Et le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te redonner le courage. C'était exactement ce que j'avais besoin. Je suis ressorti de cette pastorale, je sautais partout. Alors, dans le cœur surtout. parce que je suis pas très expressif, mais ça m'a fait du bien, c'était incroyable, et j'étais émerveillé, et je me suis dit, mais oui, mais à chaque fois que le Seigneur nous parle, et quand c'est précis, combien ça fait du bien, Seigneur, je veux vivre des temps comme ça, pas juste une fois par an, mais tous les jours, Seigneur, je veux que tu puisses me parler, à chaque fois qu'il y a un rassemblement, qu'il puisse y avoir une parole prophétique qui soit donnée pour relever quelqu'un qui est affligé, le Seigneur l'a fait pour moi, je ne suis pas le meilleur des hommes, il veut le faire pour n'importe qui. La seule chance, c'est qu'il faut qu'on s'attende à lui. Comme cette dame aussi qui est venue à Colomiers, qui est venue dans cet état d'esprit, ben le Seigneur lui a parlé. Là, c'était pas pendant une parole prophétique particulière, c'était la prédication. Mais le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous voit ce matin de quelle manière on écoute sa parole. Il voit si on vient à se mettre à son contact pour être transformé ou si c'est juste pour accomplir notre devoir religieux. Le Seigneur le voit. Mais l'important, si nous voulons vivre des expériences avec le Seigneur, c'est de venir et nous mettre à son contact. La Bible nous dit que nous tous qui contemplons le visage du Seigneur, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Quand on regarde Jésus, mais quand on le regarde dans le but de que les choses changent dans notre vie, alors on est transformé. Comment est-ce que vous regardez le Seigneur ce matin? Comment est-ce que je regarde le Seigneur? Je veux le regarder et dire, Seigneur, que ton amour fasse son travail dans mon cœur. Oh, il y a du travail, Seigneur, oui. Mais je veux me placer entre tes mains, parce que je crois que tu es la solution. On va lire un autre passage, dans Jean chapitre 11. Et là, ça va être quelque chose de différent. La même parole qui est donnée, mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va le dire à Jésus. Viens et vois. Dans Jean chapitre 11, on connaît cette histoire de Lazare qui est malade. C'est ce qui nous est dit au premier verset. On va pas lire à partir de ce verset-là. On va lire à partir du verset 28. Peut-être juste rappeler que la parole que le Seigneur Jésus a dit au verset 4, quand les sœurs de Lazare envoient des envoyés donc à Jésus pour lui expliquer que son frère est malade, leur frère est malade, Jésus leur donne cette parole, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Regardez au verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Première personne qu'on voit dans ce passage, bien sûr il y a l'histoire de Marthe, mais je voudrais passer directement à Marie, qui est là, qui est dans sa maison. Elle est venue, elle a vu le Seigneur Jésus et elle a vu la gloire de Dieu. Quand on vient devant le Seigneur, quand on voit le Seigneur de tout notre cœur, qu'on s'attend à lui dans notre besoin, même quand on est en période difficile, comme c'était le cas pour Marie, et qu'on s'attend au Seigneur, on peut voir la gloire de Dieu. On peut devenir quelqu'un qui est un croyant convaincu, un témoin de la gloire du Seigneur. Est-ce que ça vous intéresse ce programme ? Témoin de la gloire de Dieu. Pourtant, quand on lit le début de cette histoire, on se dit, mais attends, le frère il est malade et même il est mort. C'est ça la gloire de Dieu ? Ah oui, si on s'arrête à cette portion de l'histoire. Mais Jésus avait dit, Jésus avait prévenu. Le problème qui se passe souvent quand on est face à la maladie, c'est qu'on ne sait pas ce que Dieu pense. Est-ce que Dieu veut se glorifier dans la maladie ou pas ? De toute façon, il veut le faire. Soit en guérissant de manière miraculeuse, soit en donnant une capacité surnaturelle pour résister dans la maladie, parce que le Seigneur est celui qui veut se glorifier, comme nous l'indique ce passage. J'étais interpellé même d'entendre la semaine dernière ce témoignage, quelqu'un qui me disait être athée, quelqu'un qui commence, oui, moi je suis quelqu'un d'athée. Et puis quand je commence à parler avec lui, il me dit, oui, je suis athée, mais je pense quand même, finalement, qu'il y a quelque chose au-dessus qui est tout puissant. Et il raconte cette histoire que quand une personne de sa famille s'est convertie, lui il s'était fait mal à la jambe, il avait le mollet tout enflé, énorme. Et la famille, la dame qui s'était convertie, elle a dit, mais si tu veux, on peut faire venir le pasteur, va prier pour toi. Et lui qui croyait pas plus que ça, elle a dit, bon, allez, on essaye, ça coûte rien. Et le pasteur est venu, il a prié, et sa jambe, instantanément, elle a été guérie. Et le gars, il me dit, je suis athée. Mais avec ce témoignage-là, c'est obligé, il y a quelque chose quand même. Dieu, il regarde pas si on est plein de foi ou si même on est athée, mais il regarde s'il y a quelqu'un qui a la foi pour qu'il y ait la guérison. Si le pasteur avait pas eu la foi, il y aurait rien qui serait passé. Mais le pasteur a été rempli de foi, et le Seigneur est celui qui guérit encore aujourd'hui. Vous le croyez ça que le Seigneur guérit aujourd'hui ? Il guérit même des gens qui sont pas bien disposés. Parce que lui, il est tout puissant. Son désir, c'est pas seulement qu'on soit guéri, mais c'est de se glorifier. Et quand cet homme s'est souvenu de ces choses, il a dit, oui, quand même, il y a un Dieu qui est là. Il y a quelque chose qui est en haut. Et c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir à chacun d'entre nous. Parce que nous devons nous attendre à voir la gloire de Dieu dans nos situations. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, on est obligé de passer par des temps difficiles. Où est-ce que Dieu va pouvoir se glorifier ? Et c'est le cas de Marie. Elle vient, elle sort de sa maison, dans sa maison, tous les gens étaient là pour la consoler, tous les gens étaient là pour lui dire, il va falloir que tu t'habitues, ton frère il est parti, mets une croix dessus, c'est fini. Enfin, il ne lui disait pas comme ça, mais c'est le message qui était passé. Et donc, cette femme, elle était en train de pleurer. Elle était dans les larmes. Elle était dans l'incompréhension parce qu'elle avait demandé de l'aide à Jésus et il n'avait pas répondu comme elle voulait. Seigneur, viens guérir mon frère. Et le Seigneur, il a attendu 4 jours. Et des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est de cette manière-là qu'elle est venue. Et le Seigneur nous invite à venir, même dans nos moments de tristesse, même quand les événements ne se déroulent pas comme on pense qu'ils devraient se dérouler. Elle est venue, quand elle a vu Jésus, vous avez vu ce qu'elle a fait ? Elle tombe à ses pieds. Elle lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle confesse sa foi. Même si elle est limitée, elle a la foi que Jésus est quelqu'un qui peut guérir. Mais elle n'a pas la foi que Jésus ressuscite. Mais elle avait quand même la foi que Jésus guérit. C'est déjà bien. Mais elle était limitée dans sa foi. Et Jésus va lui permettre d'aller encore plus loin. Jésus va lui permettre de vivre quelque chose à son contact. Elle va devenir un témoin de sa gloire. Et comment est-ce que ça a été possible ? Ben, la première chose, c'est quand elle a dit elle-même, « Ô Seigneur, viens et vois. » Des fois, c'est le Seigneur qui nous dit « Viens et vois » et c'est bon quand il nous le dit. Mais quand nous, on dit « Seigneur, tu vois, dans mon cœur, il y a un problème là. Viens et vois. Seigneur, tu vois, cette promesse que j'ai enfouie depuis tant d'années et que je pense qu'elle ne va jamais se réaliser. Viens et vois, Seigneur. » Cette femme, il est dit au verset 33, « Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs, frémit en son esprit, tout ému. » Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. Viens jusqu'au fond de mon cœur, Seigneur, là où personne ne peut voir. Et regarde au fond ce qui est là, ce qui est comme enterré, ce sur quoi j'ai mis une croix, ce sur quoi je pense que c'est impossible que les choses changent. Seigneur, viens et vois. Viens et vois ce péché avec lequel je combats. et que je pense que j'arriverai jamais à le surmonter. Dites-le, Seigneur, viens et vois. Dites ce qui ne va pas dans votre cœur. Et dites-le au Seigneur surtout. J'ai besoin que tu fasses ton travail. Au verset 35, il est dit que Jésus pleura. C'est un moment particulier, quoi. On a l'habitude de voir un Seigneur qui est plein d'autorité. Et là, Jésus pleura. Certains ont dit, ah, il pleure parce qu'il est tellement ému de compassion. Oui, bien sûr que Jésus est ému de compassion. Mais les pleurs, quand Jésus pleure, c'est pas la compassion. Quand Jésus pleure, c'est parce qu'il y a une tristesse par rapport à l'incrédulité. Quand il était devant la ville de Jérusalem, la Bible nous dit qu'il s'est mis à pleurer en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule, rassemble ses poussins et tu ne l'as pas voulu ?» Jérusalem est une ville d'incrédules. Et Jésus pleurait devant l'incrédulité. Jésus pleurait devant les gens qui disaient « Ah, mais lui qui a guéri l'aveugle, est-ce qu'il pouvait pas faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Il entend toutes sortes de discours qui sont seulement des paroles négatives d'incrédulité. Et Jésus va dire une chose qui est une image de ce que nous devons faire, enlever la pierre, ôter la pierre. Et pour nous, aujourd'hui, ça retentit de cette manière, enlever l'incrédulité de votre cœur. Jésus veut se glorifier, Jésus veut manifester sa gloire. Ôter la pierre de l'incrédulité qui est là, qui bouche le passage. Enlever ça. Il y a des choses que l'on est appelé à faire. Si on ne les fait pas, la puissance de Dieu ne peut pas venir aussi puissant que notre Seigneur est. Si on ne fait pas notre part, le Seigneur ne va pas agir pour nous. Il va le faire pour celui qui va accepter. Première chose, Seigneur, viens et vois. J'amène le Seigneur là où ça fait mal. Et puis j'enlève la pierre de l'incrédulité. Et puis je m'appuie sur la parole. Jésus, il lui rappelle, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas si tu restes dans l'incrédulité que tu vas voir la gloire. Mais c'est si tu crois. Si tu as cette confiance que Dieu peut faire ce que toi, tu peux pas faire. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, on sait pas trop dans quel état d'esprit ils étaient. À un moment donné, il y a eu la foi qui a dit « Bon, on va écouter ce que le Seigneur Jésus dit. On va lui obéir. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si Jésus est puissant pour ressusciter. Je ne sais pas tout ça. C'est trop. Ça me dépasse. Une science au-delà de ma portée est trop difficile à comprendre. Seigneur, ce n'est pas grave. Je le fais quand même. J'obéis. » Et le résultat, c'est que Jésus a pu apporter cette parole de vie. Lazare sort. Quelqu'un qui a dit que si Jésus n'avait pas dit Lazare, c'est tous les morts de la terre qui seraient sortis à ce moment-là. Il y aurait déjà eu la résurrection. Mais Jésus voulait pas. Il y a le timing du Père qui c'était pas le bon moment. Il a juste dit Lazare sort. Mais sa parole est vie. Jésus venait de dire je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Quand même, il serait mort. Et le Seigneur Jésus a dit une parole. Et ça a amené la vie dans cet homme. Et le Seigneur Jésus veut faire de même pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons lui dire, Seigneur, viens, viens et vois. Viens et vois dans mon cœur. On va fermer les yeux pendant quelques instants.